J'aimerais que l'on puisse ouvrir ce matin notre Bible dans l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Et avant cela, avant de faire la lecture de quelques versets dans ce passage, nous allons prier. Eh bien Seigneur, nous voulons encore ce matin venir devant toi, te remercier Seigneur pour ta bonté, te remercier pour ta fidélité, te remercier pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir être réunis ensemble. Merci pour ce temps que nous avons pu passer ensemble déjà à tourner nos regards vers toi pour te louer, pour t'adorer, Seigneur, pour ce que tu es. Nous rappeler, Seigneur, combien, Seigneur, tu es bon, combien tu es grand, combien tu es puissant. Et Seigneur, nous voulons encore plonger nos regards dans ta parole ce matin et regarder, Seigneur, encore ce que tu veux nous enseigner. Parce qu'il y a encore des choses, Seigneur, que tu veux encore nous faire comprendre pour que nous puissions avancer avec toi, grandir avec toi, te ressembler toujours plus. Seigneur, parle encore à nos cœurs, dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment considérez-vous le passé? Des choses qui se sont passées, comment les considérez-vous? Quand c'est quelque chose de bien, eh bien, on est heureux de ce qui s'est passé. On est content et voire même on extrapole un petit peu voilà ce qui s'est passé en rajoutant peut-être un petit peu des choses, en affirmant voilà, que cette chose était vraiment très très bien. Et parfois, quand la chose était moins bien, eh bien, quand le passé est douloureux, peut-être fait un peu mal, eh bien, on essaye de l'oublier, on essaye de le mettre de côté. Cette semaine, on va se rappeler d'un événement qui s'est passé il y a 75 ans. Toute la Normandie est en ébullition pour cet événement. La ville de Caen est en ébullition face à cet événement. Un énorme événement. Le 75e anniversaire du débarquement. Et on va en entendre parler pendant tout l'été. Parce que ça a été quand même un événement formidable, en même temps terrible, puisqu'il a causé des milliers de morts. Mais c'est un événement qui a ouvert la voie à la libération de la France. Et nos politiques, nos hommes politiques, vont se réunir pour se rappeler de cet événement. Et ils ont invité d'autres hommes politiques à se joindre à eux. Il y a le président américain qui va venir, il y a d'autres présidents qui vont venir pour célébrer cet événement. Et on peut se dire, mais avant, c'était avant. Le passé, c'est le passé. Regarder vers l'avenir et dire et faire table rase du passé. C'est bon, c'est le passé. On peut se dire également, le passé, c'est le passé. Mais le futur m'appartient. Regardez le présent en prenant conscience du passé pour mieux appréhender l'avenir. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, aborde le sujet du passé. Il aborde ce sujet et je vous invite à regarder ensemble ce qu'il en dit. Un passé dont il est question. Je vous invite à donc regarder dans vos Bibles, dans Éphésiens au chapitre 2, et nous lirons dans un premier temps les versets 1 à 3, et ensuite des versets 11 à 12. Éphésiens chapitre 2, des versets 1 à 3, et puis du verset 11 à 12. Alors je vais lire dans la version du semeur qui va s'afficher également. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs, d'hommes livrés à eux-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous, par nature, voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. Puis on saute un petit peu le passage et on va au verset 11. C'est pourquoi, vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des Juifs, et qui donc êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis à cause d'un rite accompli sur le corps et par des hommes, rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. En ce temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étranger aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Quand on lit ce passage, on peut, et si on s'arrête juste là, on peut se dire, waouh, quel terrible constat. Paul, dans ce texte, révèle ou aborde deux réalités. La première réalité qu'il aborde, c'est que l'homme est séparé de Dieu. L'homme est loin de Dieu, séparé de lui. Il dit, vous êtes mort, séparé de lui, aucune part avec lui. Il ne vous regarde pas. Et la deuxième chose, la deuxième réalité, c'est que l'homme est séparé des autres. L'homme est séparé des autres, séparé de Dieu et séparé des autres. Il a des ennemis. Il est étranger aux yeux d'autres. Et tout cela à cause d'une chose. Cette chose, c'est que ce que Paul nomme les fautes et le péché. La faute et le péché qui sont dans l'homme par nature. Parce que l'homme, un jour, a écouté un mensonge, a entendu un mensonge et a cru à ce mensonge. Ce mensonge qui est venu dans son oreille pour lui dire « Mais tu seras un Dieu. N'écoute pas ce que dit Dieu. Oh Dieu, est-ce que tu crois qu'il t'aime vraiment ? S'il t'aimait vraiment, il t'aurait permis de manger de ce fruit, ce beau fruit que tu es en train de voir, ce beau fruit qui est là et dont il te dit « Ne mange pas. » Voilà comment le péché est entré dans le monde à cause d'un mensonge. Un mensonge. Un mensonge que Ève a bien voulu entendre. Que Ève a laissé passer dans son oreille et aller jusque dans son cœur en regardant ce fruit et se dire « Mais c'est vrai, il est si beau, il a l'air si bon. » Pourquoi ne le mangerais-je pas ? Pourquoi je m'attarderais à écouter ce que dit Dieu ? Et cela a conduit tous les hommes, à l'esclavage. Tout ça a conduit tous les hommes à rendre les hommes esclaves. Aujourd'hui, plus un homme est capable de lutter contre le péché. J'ai envie de quelque chose, je le prends. Je veux quelque chose, Je vais tout faire pour l'avoir. C'est si fort à l'intérieur de moi. Il faut que je satisfasse mon envie égoïste. C'est pour moi. Et puis, Dieu dans l'histoire. Ah, si je suis triste, c'est à cause de Dieu. Si je suis malade, c'est à cause de Dieu. Si je suis dans telle situation, c'est à cause de Dieu. C'est la faute de Dieu. Encore un mensonge. Un mensonge distillé par cet ange. Cet ange qui a pris la forme d'un serpent. Cet ange que l'on appelle Satan. Cet ange que l'on appelle également le diable. Cet ange que l'on appelle encore Lucifer. L'ange de lumière. Alors la Bible ne dit pas le nom Lucifer. Ne parle pas de Lucifer, mais elle dit l'ange de lumière. Ce qui a donné en latin Lucifer. Il agit encore en distillant des mensonges. En voulant garder l'homme dans cet esclavage. Tu n'as pas, continue. Vas-y. Pour distiller en lui la révolte, la rébellion contre Dieu. À cause de ce mensonge, l'homme est séparé de Dieu. À cause de l'écoute de ce mensonge. L'homme est séparé de lui. Il n'a aucune part avec lui. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est le désir de Dieu que l'homme soit séparé de lui? Dieu, quand il a créé l'homme, il a fait bon. Il a fait parfait. Il l'a fait à son image. Si je fais quelque chose de bon, est-ce que mon désir, c'est que cette chose de bon soit gâchée? Imaginez, je fais un gâteau au chocolat. Un bon gâteau au chocolat. Est-ce que je vais faire exprès d'y mettre du poison? Non. Je veux que les autres puissent y goûter. Je veux que les autres puissent le manger. Un bon gâteau. Dieu nous a fait bon. Dieu ne voulait pas que son gâteau soit gâché. Si je reprends l'image. Il ne voulait pas nous séparer. Il ne voulait pas que nous soyons séparés de lui. La deuxième réalité, c'est que nous sommes séparés de Dieu à cause du péché, mais nous sommes également séparés des autres. Les autres, les relations avec les autres sont gâchées à cause du péché. Nos relations ne sont pas au beau fixe. Nos relations sont gâchées par l'orgueil. Nos relations sont gâchées par le manque de pardon. Nos relations sont gâchées par le jugement des uns des autres. Nos relations sont gâchées. Et voire même sont modifiées. Quand Dieu prévoit, quand Dieu dans sa grâce choisit un peuple, choisit le peuple d'Israël et lui fait grâce et lui donne des lois, lui fait alliance avec lui. Eh bien, ce peuple, certains en tout cas, trouvent moyen d'aller au-delà, de prendre ce privilège et d'en faire voilà, quelque chose d'égoïste et de personnel. Jusqu'à dire aux autres, vous ne faites pas partie de nous. Vous n'avez aucune part avec nous. C'est ce que nous dit le verset 11 du chapitre 2. Vous n'avez pas de part. Vous êtes des incirconcis. Nous, on est le peuple d'Israël. Nous, on a le droit aux lois. Nous, on est les privilégiés de Dieu. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu, tout ça ? Non. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Au lieu de l'amour, il y a eu mépris. Là où il pouvait y avoir de l'amour, il y a eu mépris. La loi qui devait servir de moyen de grâce pour conduire au salut s'est transformée en moyen de séparation entre ceux qui la suivent et ceux qui ne la respectent pas. La loi est devenue un moyen de condamnation, alors qu'elle devait être un moyen de rédemption. Alors, arrivé à ce constat, on peut se dire, mais pourquoi Paul nous dit tout cela ? Pourquoi il dit ces choses ? Pourquoi il prend son temps à se focaliser sur le passé ? Peut-être que certains d'entre vous sont là en train de trépigner sur les chaises et en train de dire « Mais t'as oublié de dire quelque chose !» Qui trépigne sur sa chaise là ? T'as oublié de dire le temps qu'il emploie. Paul emploie un temps précis. Il emploie l'imparfait de l'indicatif en français. Il utilise un temps de verbe qui décrit une situation réelle, mais située quand ? Dans le passé. C'est réel, mais c'est passé. Nous étions autrefois. Nous étions morts. Nous étions séparés de Dieu. Nous étions séparés des autres. Mais, et c'est ce que nous allons lire dans la suite. Nous étions, c'était un fait. Et ce passé nous questionne ce matin sur notre état actuel. Est-ce que ce passé est pour moi passé ? Est-ce que je peux dire « j'étais » ou est-ce que je dis encore « je suis » ? Il est bon de se poser la question ce matin suite à l'écoute de ces réalités. Est-ce que je peux dire « je suis en paix avec Dieu » ? Est-ce que je peux dire « voilà, j'ai fait la paix avec lui, je suis en paix avec lui, j'ai choisi de le suivre ». Je peux dire en toute liberté, comme nous l'avons chanté ce matin, « j'ai décidé de faire ta volonté ». Ou est-ce que je suis encore séparé de lui ? Et peut-être que ce matin, tu t'interroges. Peut-être que cette réflexion, tu es en train de la faire et tu le fais bien. Mais là où Paul insiste, et ce que Paul veut que l'on retienne, c'est que ces choses sont passées. Ces choses sont passées. Regardez là où il met l'accent et on va lire la suite à partir du verset 13. Du verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous étions séparés de Dieu. Mais Dieu n'a pas voulu que les choses soient ainsi. Dieu, dans son amour, dans sa grâce infinie, a prévu une solution, a prévu la solution. Et cette solution, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu sur cette terre, Jésus-Christ qui s'est fait homme, Jésus-Christ qui a accepté de vivre en tant qu'homme. Jésus-Christ qui était là-haut dans le ciel, qui a accepté de prendre ma condition d'homme et d'aller jusqu'à mourir sur la croix pour que je puisse être sauvé. Jésus-Christ qui a pris sur lui mes souffrances. Jésus-Christ qui a pris sur lui mes craintes et mes peurs pour me réconcilier avec le Père. Voilà ce que Jésus-Christ est venu faire. Jésus-Christ qui a accepté d'être séparé pour un temps de son Père, afin que je puisse être uni à lui et que je puisse être réconcilié avec le Père. Voilà ce que Jésus-Christ a fait pour moi en mourant sur la croix. Et ce n'était pas une mince affaire. Ce n'est pas quelque chose de facile. Mais il a accepté de prendre cette condition pour que moi, toi, tu puisses être sauvé. Toi, tu puisses être réconcilié avec Dieu. Que tu puisses dire, voilà, ces choses sont passées. Et que tu puisses dire, là où tu es, t'es esclave, j'ai la victoire. Là où tu n'avais aucun pouvoir sur le péché. Là où le péché te condamnait à lui obéir, là tu peux dire stop. Parce que Jésus-Christ a payé pour toi. Là où tu étais tenté, Jésus-Christ te donne la victoire. Jésus-Christ te donne la victoire. Parce qu'il t'a uni à lui. Il a fait de toi une nouvelle créature qui te donne la possibilité d'être avec lui et de retrouver ce lien avec Dieu, cette union avec Dieu, cette union qui a été perdue dans le jardin d'Éden. Cette commune union avec Dieu, cette relation privilégiée. Et tout ça, par mon mérite, par tous les efforts que j'ai faits, par toutes les prières que j'ai faites, par toutes les œuvres que j'aurais faites, non, par pure grâce, par simple amour. Par simple amour. Ce mais Dieu qui nous unit à Christ, qui fait que nous pouvons bénéficier des mêmes privilèges que Christ a, eh bien, nous unit également aux autres. Regardez verset 13. Mais, encore ce mais qui est là, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Là où il y avait mépris, là où il y avait jugement de l'autre, là il y a réconciliation. Et nous ne sommes plus séparés du peuple juif, mais nous ne formons qu'un seul peuple par le sang de Christ. Jésus nous unit à lui, à la seule condition que nous plaçons notre confiance en lui, que nous mettons nous croyons à ce qu'il a fait pour nous, que nous croyons à ce que nous mettons confiance à ce qu'il dit. Quelle grâce! Et cela ne vient pas de nous, mais cela vient de lui. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Nous étions séparés de Dieu. Nous étions séparés des autres. Mais par la grâce de Dieu, nous avons été réconciliés avec Dieu et nous sommes réconciliés avec les autres. Le pardon est possible entre nous parce que Christ nous a pardonné le premier. La vie avec les autres est possible parce que Christ a tout fait pour que cela soit possible. Et c'est un défi pour nous. C'est un défi pour nous aujourd'hui de vivre cette grâce dans l'Église. D'être une Église qui vit par la grâce de Dieu. Qui prend cette grâce et qui la prend au mot et qui avance. Une Église qui rayonne. Voilà notre leitmotiv. Voilà notre désir. Mais nous ne pouvons briller et rayonner que si nous faisons confiance à Christ. Si nous nous attendons à lui jour après jour et que nous lui disons, voilà, c'est impossible par nous-mêmes, mais avec toi c'est possible. Nous voulons compter sur ta grâce. Regardez, regardez le verset 9. Plutôt le verset 10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Il y a une nouveauté de vie qui est faite par Christ, une nouvelle création qui est faite pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ces œuvres, elles sont là. Il n'y a plus qu'à relever le défi et y entrer. Voulons-nous ce matin relever le défi de la grâce et avancer avec lui? Voulons-nous ce matin dire « Oui, tu as déjà préparé des œuvres d'avance et j'y rentre. » Dire « Oui, tu me rends capable de le faire. » Dire « Non, je ne suis pas nul. » Non, je ne suis pas assez bien. Non, ça c'était autrefois. Non, mais tu es orgueilleux à penser que tu es capable de faire des choses. Tu es incapable. Oui, je suis incapable. Mais je suis capable parce que Christ a payé pour moi. Je suis capable de faire les choses parce que Christ a fait tout ce qu'il y avait à faire. Et moi, je n'ai plus rien à faire. J'ai juste à dire... Oui, juste à dire oui. Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes. Voulons-nous y entrer ? J'aimerais, pour conclure, vous parler de Silly Putty. Qui connaît Silly Putty ? Tu connais, Betty ? Silly Putty. Qu'est-ce que ça veut dire, Silly Putty ? Ça veut dire mastic idiot. Mastic idiot. Vous savez ce que c'est, ce mastic idiot ? Ce mastic idiot, c'était un substitut du caoutchouc. En tout cas, on espérait qu'il allait substituer au caoutchouc, mais cela n'a pas marché. Et on l'a mis de côté. On l'a mis au rebut. Et vous savez qui est-ce qui a trouvé de l'intérêt à ce mastic idiot ? Les enfants. Si vous avez des enfants, vous savez ce que c'est le silly putty. C'est le slime. C'est le slime. Ce slime que les enfants aiment prendre dans les mains, jouer avec et qui ne colle pas aux doigts. Ce slime qu'ils ont partout. Ce slime qui était voué à l'échec industriel est devenu un succès commercial dans tous les magasins de jouets. Tous les magasins de jouets en ont. Et vous savez ce que l'on peut faire également avec le slime ? Peut-être que cela va vous étonner. Cette substance n'est pas seulement un jouet, mais on l'utilise pour nettoyer des claviers d'ordinateur. Vous la mettez sur votre clavier, ça le nettoie. Pour fortifier les muscles lors de thérapie physique. Pour diminuer le stress au boulot. Les géologues l'utilisent également pour la modélisation d'événements géographiques. On la met sur les yeux des patients qui passent au scanner. Et cette substance a enrober les outils qu'utilisaient les membres d'Apollo 8, une célèbre expédition spatiale. C'était un échec. Et c'est devenu un succès. L'ennemi, le diable, a fait de nous un échec, a voulu nous conduire dans un échec. Mais Dieu, dans sa grâce, Dieu, dans sa miséricorde, a voulu faire de nous un succès et veut faire de nous des succès. Veut que nous puissions regarder le péché comme autrefois et regarder à lui avec espérance. Que nos difficultés présentes ne nous découragent pas. Que nos sentiments ne nous découragent pas. Mais que nous puissions regarder à Christ qui par sa grâce a tout fait. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Amen.
Amen.
Amen. Prions. Eh bien, Seigneur, encore ce matin, nous voulons venir à toi et te remercier pour ta grâce. Merci pour cette grâce que tu as fait envers nous. Nous ne la méritions pas. Nous en étions loin. Nous étions séparés de toi, mais par grâce, par Jésus-Christ, tu nous as réconciliés avec toi. Tu n'as pas voulu que nous soyons séparés de toi, mais tu as voulu réparer. Alors Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci de faire de nous, Seigneur, des hommes et des femmes utiles pour toi. Donne-nous, Seigneur, de rentrer dans les œuvres que tu as déjà préparées d'avance pour nous. Donne-nous d'être une église qui te glorifie. Donne-nous d'être une église qui rayonne autour de nous, qui soit messager de cette grâce. Seigneur, aide-nous à être comme tu veux que nous soyons. Dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.